Troisième division du livre d'Ésaïe, chapitre 58 à 66. Dans cette conclusion de tout le livre est montrée la glorieuse élévation des pensées et des voies de Dieu, chapitre 55, verset 8, avec pour aboutissement l'année de la faveur de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, chapitre 61, verset 2. Première série, chapitre 58 à 60. Chapitre 58, versets 1 à 3. Le prophète est maintenant appelé de Dieu à déclarer ouvertement et comme une dernière fois au peuple leur transgression. Elle consiste, chose plus grave que tout le reste, en une profession affirmée comme si le mal n'existait pas. Ils sont tous étonnés qu'ayant pris plaisir à connaître les voies de Dieu et demandé les ordonnances de la justice, Dieu n'écoute pas. Trouver du plaisir à s'approcher de Dieu et chercher son propre plaisir et son propre intérêt peut fort bien s'allier ensemble. Versets 3 à 7. Il en est de même du jeûne. Il y a un jeûne selon l'homme et un jeûne selon Dieu. Le jeûne selon l'homme admet en même temps les contestations, les querelles, les méchancetés et la recherche de son plaisir. Le jeûne selon Dieu est un jour où l'homme afflige son âme. Le vrai jeûne, celui que Dieu a choisi, consiste à rompre avec l'iniquité et à se délivrer de tout joug, à pratiquer la charité, à donner aide aux affligés. C'est la compassion et la libéralité. Versets 8 à 12. Les conséquences d'un vrai jeûne se réaliseront pour le résidu en lumière, en justice, en exaucement. L'Éternel conduira, rassasiera, fera prospérer spirituellement, restaurera et bénira le fidèle et sa famille. Versets 13 et 14. Outre le jeûne, une seconde chose caractérise le résidu, c'est l'observation du sabbat selon la pensée de Dieu. Il se séparera entièrement des professants qui, dans ce saint jour, font leur plaisir. Il y trouve ses délices. Parce qu'il trouve ses délices en l'Éternel qu'il a institué pour signe de l'alliance avec son peuple. Chapitre 59, versets 1 à 8. Dieu n'a pas changé, verset 1, mais nous avons au verset 2 dans les iniquités de l'homme le principe de la rupture de toute relation entre lui et Dieu. Les versets 3 à 5 donnent le détail, en 12 points, des iniquités du peuple coupable. Au verset 5 et 6, nous trouvons ce qu'ils enfantent et ce dont ils cherchent à se couvrir. Au verset 7 et 8, leur marche, leur pensée, leur voix. C'est le terrible tableau rappelé en Romains 3, versets 16 et 17. Versets 9 à 15. Les ténèbres en sont la conséquence. Versets 9 et 10. Le peuple est livré au désespoir. Il n'y a point de salut. Mais, versets 12 à 15, la foi reconnaît que l'homme ne peut attendre autre chose que la colère de Dieu. Versets 16 à 21. Et voici le motif final de cette colère, verset 16, le rejet de Christ. Désormais, il n'y a personne pour intercéder. Le seul intercesseur possible a été crucifié. Voir chapitre 63, verset 5 et 66, verset 4. Mais, quant à celui qui a été rejeté, son bras l'a sauvé et sa justice l'a soutenu. Alors, versets 17 à 20, Christ se présente comme juge d'une part, comme sauveur de l'autre en faveur de ceux qui se repentent. Il devient lui-même chef d'une nouvelle semence. Verset 21. Toutes les promesses s'accomplissent en lui. Romains 11, verset 26. Ainsi, dans ce chapitre, l'Éternel commence par présenter au peuple son état, versets 1 à 8. Le résidu le reconnaît dans l'humiliation, versets 9 à 15. Alors l'Éternel intervient tout seul en délivrance et en jugement et traite une alliance perpétuelle avec le résidu. Chapitre 60. Sion et Jérusalem sont rétablis comme centre millénial des nations. La chose aurait eu lieu sans la parenthèse de l'Église, si le Messie avait été reçu au moment où commence l'évangile de Luc. Versets 1 à 7. Sion s'est réveillée, voir chapitre 51, verset 17. Elle va se lever et resplendir, la gloire de l'Éternel s'est enlevée sur elle, voir Apocalypse 21, verset 23. Tandis que le peuple coupable attendait la lumière et n'avait que ténèbres, chapitre 59, verset 9, et que les ténèbres qui couvraient Israël étaient tombées sur les nations, maintenant Israël resplendit, la gloire de l'Éternel étant vue sur lui, et lui devenant lumière pour les nations. Il en sera de même de l'Église, Nouvelle Jérusalem, à la fin. La gloire de Dieu l'a illuminée, et les nations marcheront par sa lumière. Jérusalem sera le centre de toutes les richesses des peuples qui annonceront avec joie les louanges de l'Éternel. Versets 8 à 14. Le peuple, comme les colombes volant vers leur colombier, sera ramené par les nations, apportant toutes leurs richesses avec elles. Elles bâtiront les murs de Jérusalem. Ses portes seront continuellement ouvertes, comme le seront celles de la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 25. Toute la gloire du Liban, voir chapitre 41, verset 19, viendra vers elle pour orner le temple. Ceux dont les pères avaient opprimé Jérusalem l'appellent la ville de l'Éternel, la Sion du Saint d'Israël. Versets 15 à 22. Une description est donnée des bénédictions spirituelles futures qui seront la part de Jérusalem. Comme dans toute la deuxième partie d'Ésaïe, tout dépend du fait que l'Éternel est le Sauveur et le Rédempteur d'Israël, lui le Puissant de Jacob. Verset 16. Jérusalem appellera ses murs salut et ses portes louange. Verset 18. Le soleil ne sera plus sa lumière de jour, car l'Éternel sera sa lumière à toujours. Verset 19. Voir Apocalypse 21, verset 23. Il est visible dans tout ce chapitre qu'Ésaïe va fréquemment un peu au-delà du millénium, ou plutôt un peu au-dessus des bénédictions terrestres. Le peuple sera un peuple de justes et possédera le pays à toujours.